proposé, c'est-à-dire cette histoire de l'idée et de l'échec d'un département du Morvan. Une brève remarque préalable, il semble, si on consulte tous les auteurs qui ont parlé du Morvan pendant longtemps, qu'ils ne soient pas intervenus sur cette remarque, sur cette question. Historiens et géographes, prenons-les, Baudiot, Beaugreau, Le Vingré, même Madame Bonamour, ne parle pas de ce projet, de son échec. Madame Bonamour nous tend déjà un peu la perche. Il a fallu les soucis géographiques de l'administration moderne et les tentatives d'aménagement pour rendre au Morvan, autant que faire se peut, une unité que nul, en conscience, ne peut nier. Je n'ai pas véritablement trouvé d'affirmation sur cette question, sauf un curieux numéro du Morvandio de Paris, le numéro 505 d'octobre 1965, qui s'intitulait « Un département mormé, celui du Morvan ». Un article d'ailleurs documenté, l'auteur connaissait les délibérations d'Autun et de Château-Chinon, mais il signe, je n'ai pas percé son anonymat, Argolette, ce qui est tout un programme. Il suffit de voir de Chambure ce qu'il dit de l'Argolette, qui servait beaucoup, en particulier dans les réunions et autres. Je fais votre dessin. Bref, tout cela, c'est assez récent. Je pense qu'avant de situer la chose, il faut quand même rappeler comment, en fait, les départements se sont constitués. C'est dès septembre 1989, après la chute de l'ancien régime politique et social, après ce que l'on a appelé la révolution juridique, qu'est proposé à l'Assemblée un partage de la France en environ 80 partis qui porteraient le nom de département. Le problème, c'est qu'il fallait les définir, ces départements. Il fallait en déterminer les limites et en régler les subdivisions. Qui allait s'en charger? L'affaire a été confiée aux députés de chaque province, sous le contrôle, bien sûr, du comité de constitution, qui était créé pour donner une constitution à la France, mais qui, évidemment, institué les 3 juillet 1989, il pouvait également intervenir dans les circonscriptions territoriales nouvelles. Bien sûr, la division géométrique qui avait été prévue a été repoussée, tout à fait normalement, et la loi du 22 décembre 1989 prévoit entre 75 et 85 départements qui seront divisés en districts, ceux-ci en cantons. En dernier ressort, l'Assemblée proclamera les résultats ou interviendra elle-même sur des limites qui paraîtront convenables. C'est-à-dire que l'automne 1989 a vu se multiplier les interventions des villes qui se proposaient d'être chef-lieu de département, pas d'abord de département, mais de chef-lieu de département. C'est-à-dire que nous avons eu dans ces quelques mois tout un bouillonnement de villes qui se partageaient les suivantes provinces, et l'histoire qui nous intéresse, c'est déjà un peu celle d'Autun. Dans ce bouillonnement, qui remonte assez loin d'ailleurs, nous le verrons si nous en avons le temps, Autun a joué sa chance. Pour tout ce qui était de Autun, j'ai suivi les travaux de M. Marcel Dorigny, qui nous donne l'essentiel. Autun a successivement monté 2 projets pour devenir chef-lieu de département. Il faut dire que le premier projet de devenir chef-lieu d'un département englobant tout ce que nous appellerions le Grand Morvan, c'était quelque chose qui devait surtout servir à Autun. Il faut dire que très tôt, le partage de la Bourgogne, car voilà les faits, les villes essayent de se partager. Les provinces anciennes, en en prenant au-delà des limites, enfin, j'ose pas dire un panier de crabes, mais un petit peu. Autun, dans les tout premiers projets, eh bien, Autun se voit absorbé par un département de Dijon, ce qui ne lui convient pas beaucoup, et selon d'Origny, les autorités municipales virent quelle partie on pouvait tirer de la destruction de la Bourgogne. En manœuvrant habilement, il était possible d'obtenir la création d'un département du Morvan en regroupant autour d'Autun les pays de Saulieu, d'Arnay, de Château, de Lugy, voire d'Avalon et de Vézelay, étant entendu que Autun, ça signifiait Autun, Montcenis et Bourbon-Lancy. Donc quelque chose d'énorme, le Grand Morvan, c'était peut-être très conforme à la géologie, mais ça ne correspondait pas du tout aux réalités économiques de l'époque. Donc si je poursuis la citation de M. d'Origny, « Dans une telle configuration, le chef-lieu du nouveau département ne pouvait échapper à Autun, seule ville importante, prestigieuse, elle était au centre géographique de ce département, découpée selon ses intérêts. Autun, dont nous avons vu à quel point l'économie était précaire avant 89, voyait son salut dans cette bataille départementale. Les gens d'Autun s'appuyaient sur le réseau des foires, sur le prestige antique de leur ville, sur le prestige épiscopal, qui d'ailleurs ne pouvait pas intéresser tout le monde. Il y a des gens qui n'étaient pas dans le coup, même un château chinon n'était pas dans les péchés d'Autun. Le projet était sérieusement défendu à Paris par les députés et surtout par deux personnes que l'on appelle familièrement les Autunois de Paris. Ce sont Monseigneur l'évêque Talleyrand et le Pelletier de Saint-François, qui était seigneur de Montjeu, et qui tous deux appuient. Et ce fut un échec total, qui fut connu à Autun dès le 21 novembre par une lettre des députés du bailliage qui annonçait deux nouvelles terribles. Première nouvelle, Autun n'était pas retenu comme chef-lieu. Deuxième nouvelle, les limites de département n'auraient rien à voir. D'où la réaction des gens d'Autun, c'est-à-dire de la municipalité, de monter un deuxième projet. Pour que la ville soit chef-lieu, il fallait construire autour d'Autun. C'est ce que l'on a fait très rapidement, entre le 21 et le 23 novembre. Il fallait rallier les voisins, parce qu'on avait constaté que le projet ruinait entièrement l'existence de la ville, qui n'aurait aucun commerce et ne pourrait plus avoir aucune ressource pour les citoyens. Donc, on monte un nouveau plan. Il s'agit cette fois d'attirer quelques voisins, Château-Chinon et Lucie. On leur envoie des ambassades, en même temps qu'on envoie un fort contingent de commissaires à Paris pour essayer de convaincre, pas les députés, au moins les députés voisins et le comité de constitution.